on nous dit « Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. » Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter, la faute.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Bonsoir, nous sommes lundi 8 mai, il est 19h03 et vous êtes à l'écoute du Canu Info du lundi qui sera en version un peu light et d'habitude c'est le Canu Info en mixité choisie mais ça sera plutôt pour la semaine prochaine.
Et aujourd'hui on va juste vous raconter quelques brèves de ce qui s'est passé ces derniers jours à Lyon notamment en ce qui concerne les travailleuses du sexe, en ce qui concerne la manifestation du 6 mai et aussi la venue de Macron aujourd'hui et cette manifestation qui s'est déroulée. Et puis on va vous repasser un petit sujet qu'on avait passé il y a quelques années sur le 8 mai 45 et les massacres de Sétif, à Sétif, Guelma et Kerata par l'armée française contre les Algériens.
Et on commence tout de suite par vous lire le communiqué du comité de lutte en soutien aux travailleuses du sexe de Gerland.
Alors, depuis plusieurs semaines, nos camarades travailleurs, travailleuses du sexe engagés à nos côtés contre la réforme des retraites subissent harcèlement policier et menaces d'expulsion. Ce jeudi 4 mai, la préfecture a mis à exécution ses menaces en expulsant les travailleurs travailleuses de Gerland sans proposer aucune solution. Cette mesure injuste prend comme prétexte la tenue prochaine de la Coupe du Monde de rugby. Une fois de plus, les intérêts des grands groupes capitalistes et du sport business priment sur nos vies.
L'arrêté d'expulsion vise l'ensemble du 7e arrondissement sans aucun fondement. La préfecture foule au pied les négociations entreprises à l'initiative des TDS et montre ainsi son mépris. Des centaines de travailleurs et travailleuses précaires se retrouvent du jour au lendemain sans lieu de travail. La violence économique et physique que la préfecture exerce sur les travailleuses du sexe montre bien le cynisme de leur argumentaire moraliste qui se fait toujours sur le dos des femmes. Face à cette répression injuste, la mairie se terre dans un silence coupable.
Nous réaffirmons notre soutien aux travailleurs, travailleuses du sexe, à nos sœurs et camarades aux côtés desquels nous luttons depuis plusieurs mois. Nous sommes aux côtés de tous les travailleurs, travailleuses, avec ou sans papier, avec ou sans contrat. Nous sommes aux côtés de tous et toutes les travailleurs, travailleuses victimes de la répression, du sexisme d'État et de la barbarie capitaliste.
Nous appelons donc à rejoindre tous les rendez-vous proposés pour les soutenir et à construire la riposte. Vous pouvez retrouver leurs différents communiqués sur Rébellion. Et comme il faut des thunes en attendant la révolution, vous pouvez aussi les soutenir financièrement. On mettra le lien sur le le blog de la cagnotte des TDS. Il y a eu à la suite, donc ça c'est un communiqué du comité de lutte qui a été publié jeudi soir à la suite de l'Assemblée Générale Interprofessionnelle, et il y a eu le lendemain matin un rendez-vous pour une action surprise du côté du 7e.
Voilà, il y a eu une occupation de la mairie du 7e, alors ça a été très rapide, ça a duré environ 45 minutes. Il y a une rencontre avec Fanny Dubot, qui est donc la mairesse du 7e arrondissement. Et il y avait notamment un truc en jeu, c'était de pouvoir récupérer les camions sans avoir à payer la fourrière. Et donc ça, c'est quelque chose qui normalement est déjà acté, de pouvoir récupérer ces camions sans avoir à payer. Et puis surtout, il y a un rendez-vous mercredi matin avec Mohamed Chihi, qui est le responsable sécurité de la mairie centrale et qui est en lien directement avec la préfecture qui est pour l'instant responsable de cette expulsion, mais ça ne se fait jamais sans l'aval de la mairie et de son service sécurité. Donc tout ça est plutôt, on l'espère en tout cas, bien parti pour ces travailleuses du sexe.
Alors sur les infos un peu du week-end, donc ça c'était vendredi, samedi 6 mai, l'Assemblée Générale Interpro, donc initiée par le comité de lutte de Lyon, appelait à une manifestation régionale contre la réforme des retraites et aussi pour répondre donc à l'appel des camarades du S qui a été blessé à Sainte-Soline. Les camarades du S avaient en effet initié un appel à action la semaine du 1er mai contre l'État et le capital. Donc le comité de lutte a organisé cette manifestation et après des premiers échanges avec la préfecture qui a imposé un changement de parcours aux organisateurs, la préfète Fabienne Buchiot, dans un beau concert de ouin-ouin, a tout simplement décidé d'interdire cette manif sous des prétextes plus fallacieux les uns que les autres. Alors d'abord, le manque de flics très très fatigués par le 1er mai et la perspective du 8 mai de récupération présidentielle. L'arrêté faisait un beau retour sur les différentes manifs depuis le début du mouvement. Aucune n'ayant été organisée, rappelons-le, par le comité de lutte, mais plus c'est gros, plus ça passe. On reprochait également aux organisateurs le relais de cette manif dans différents médias de lutte lyonnais, en l'occurrence Lyon Insurrection et Rébellion. Comme toutes les manifs depuis le début du mouvement, avait été relayé évidemment dans ces différents médias. Bref, du vent pour essayer de désigner une fois de plus les bons et les mauvais manifestants, les bons et les mauvais organisateurs. Mais malheureusement pour Fabienne Buchiot, même le tribunal administratif n'a pas goûté sa rhétorique antidémocratique et sa volonté manifeste d'empêcher la contestation, puisque quelques heures avant donc cette manif, l'arrêté préfectoral a été cassé par le tribunal administratif de Lyon. Donc une belle victoire sur le plan judiciaire et qui s'est terminée par une belle manif déterminée et festive. La préfète donc en PLS, et on s'arrête pas là, on continue et on se retrouve tous en AG ce jeudi à 18h à la Bourse du Travail pour organiser la suite, puisque le 6 juin c'est dans bien trop longtemps.
Et oui, même les juges détestent la préfète, c'est dire si vraiment tout le monde la déteste, cette préfète. Et puis aujourd'hui, alors, la préfecture, on a encore mis des tartines, puisque Macron, Dupond-Moretti, Papendia et venaient faire de la récupération politique pour rendre hommage à Jean Moulin. Alors, si rendre hommage à Jean Moulin n'est pas un problème pour nous, on se rappelle aussi que Macron a rendu hommage à Pétain en 2018. Et puis, vu l'ensemble des politiques racistes, xénophobes qu'il met, lui et son gouvernement, en place depuis 2017, vu les déclarations de Darmanin qui trouve Le Pen ou Mélenchon trop molle, on a un petit peu des doutes sur leur antifascisme. Alors, d'ailleurs, Il y a eu tout récemment à Caluire un tag qui a été écrit sur les murs, et la préfecture a trouvé que c'était un scandale. On vous laisse en lecture orale de ce communiqué.
Admissible dégradation à proximité de la maison du Goujon à Arrobasville-Caluire, lieu où fut arrêté Jean Moulin, et du mémorial qui lui est dédié, à la veille d'une cérémonie républicaine devant lui rendre hommage pour son rôle essentiel dans l'unification de la résistance française.
C'est la voix Twitter de Fabienne Buchiot qu'on vient d'entendre. La préfecture gazouille beaucoup en ce moment, mais c'est marrant, elle retire vite ses tweets quand elle se retrouve en porte-à-faux.
Voilà, et bref, en tout cas, quand on a Macron et consorts, hein, notamment Dupond-Moretti et Pap Ndiaye, qui viennent chez nous, alors qu'un mouvement social d'ampleur dure depuis le 19 janvier contre la réforme des retraites, et probablement bien plus que cette réforme, on le sait tous et toutes, hein, et que c'est donc toujours en cours, on n'allait pas laisser passer la possibilité d'une bonne casserolade. Alors, malgré le périmètre de sécurité ultra sécurisé de 1 km² autour de Montluc, puisque c'était le lieu où se sont rendus ces trois compères, malgré le refus catégorique du référé liberté porté entre autres par la CGT, refus du tribunal administratif, probablement sous pression du ministère de la Justice, eh bien, environ 5000 personnes ont répondu présents et présentes aujourd'hui. Beaucoup de forces syndicales, deux partis politiques, des autonomes, une manif sauvage qui a duré pendant au moins 2 heures. C'était très classe. Bon, comme d'habitude, les forces de l'ordre ont fait n'importe quoi en gazon, à tout va, pour rien, à peu près comme samedi, on l'a dit tout à l'heure. Mais les lacrymos et la répression ne nous arrêteront visiblement pas.
Et le mouvement n'est pas prêt de se terminer. Et on finit, avant notre dossier, par une lecture du dernier communiqué donc, des parents de Serge, blessé à Sainte-Soline. On a déjà pas mal parlé ici, donc des nouvelles plutôt encourageantes de Serge. On vous lit ça tout de suite. Depuis qu'il est officiellement sorti du coma, l'état de Serge progresse lentement, mais assez régulièrement. Il est encore pas mal confus, parle peu, mais un peu plus clairement chaque jour. Il répond à des questions, nous reconnaît à la voix, râle sur son inconfort et son manque de nourriture. Il devrait bientôt sortir du service de réanimation pour entrer dans celui de soins continus, puis aller dans celui de rééducation. Le problème étant de lui trouver une place. Nous n'avons aucune nouvelle de l'enquête conduite par l'IGGN suite à notre plainte pour tentative de meurtre et entrave volontaire à l'arrivée de secours, mais on s'y attendait.
De nombreuses actions de solidarité envers tous les blessés et toutes les blessées ont eu lieu un peu partout en France et même dans d'autres pays, en Grèce, en Espagne, au Brésil, au Mexique, en Italie, en Belgique et autres. Bien au-delà de la mouvance politique de Serge, par exemple, venant de ses collègues accompagnateurs de montagne. Nous organisons samedi prochain à Poitiers un forum des luttes et des livres anticapitalistes. Nous pensons en effet qu'il est nécessaire de se sortir de la stricte antirépression pour replacer les événements de Sainte-Soline dans le cadre des luttes actuelles et de leur répression, y compris sur les lieux de travail, trop souvent oubliés.
Et donc, comme d'hab, un communiqué plutôt classe des parents de Serge. Évidemment, c'est des bonnes nouvelles, mais il faut encore rester un peu prudent sur la suite pour Serge. En tout cas, on vous laisse écouter tout de suite un son qui a été écrit pour lui et qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de passer à la radio.
13-12, des 14, tous les camarades du S. Victimes de violences policières, les militants, l'État oppresse, ignare, enlevez vos visières. À cap sont tous mes textes, celui-ci sera pour le S. Le sang des militants qui perdurent, mais que l'État veut mettre en pièces, à cap sont tous mes textes, celui-ci sera pour le S. Le sang des militants qui perdurent, mais que l'État veut mettre en pièces, en caisse, ils ont creusé l'abîme, ils nous prient mes trash. Dans nos poches, pas de cash, qu'on les prise et clash. Ils nous prient, on se fâche, faut qu'on prie et cash. Je fais des euros violés, pas des pesetas. L'argent ne fait pas le bonheur, donne alias. La misère en dément, un bras juste en face. Le quotidien des mondes, faut rester tenace. Faut se serrer les coudes quand il lâche. Tu m'en sais châtiment qui terrasse. A succomber sous ses coups, on est en masse. La révolte se propage car on est en marge. Crash sur la PGR car il nous chasse. Errance, bon, tu t'égardes dans des impasses. Grave, t'es nique ta mère vu qu'on nous fiche. Marque dans le bitume, sois à nos places. Passe, passe et pisse à part de bail. Les camarades du S le savent. Même si les CRS nous frappent fort, toujours en face, oui, on les brave. Donne-moi le mic, mon rap libraille. Quand je dérale, salsa sans attirail. Des cadences dans mes tripes, un tirail, le sang coule et mes vers mitraillent. Authentique, on est en désaccord. Serge vous représente sa bataille. Chaque mot guérisse toutes ses entailles. Je veux que l'expé vert et qu'on les graille. Racaille à cap jusqu'à la mort. 13-12 ça, on baisse les ports. Regarde comment ils se comportent. Ce putain de rapport de force qu'on porte. Racaille à cap jusqu'à la mort. 13-12 ça, on baisse les ports. Regarde comment ils se comportent. Ce putain de rapport de force qu'on porte. Bien sûr, à cap sont tous mes textes. Celui-ci sera pour le S. Le sang des militants qui perdure, mais que l'État veut mettre en pièces. En pièces à cap sont tous mes textes. Celui-ci sera pour le S. Le sang des militants qui perdure, mais que l'État veut mettre en pièces. Les portes se ferment des plus jeunes âges. On marche en marche dans les marécages. On crie, on se fâche pour sortir des cages. Le bonheur n'est qu'un mirage. Nos images sont prises en otage. Dis-moi comment pourrais-je rester sage. Je vois la S à tous les étages. Dur de ne pas succomber à la rage. Du courage, il en faut pour s'en sortir. Tire sur les tasses, ça tire et les clivages. Des barrages, il y en a qui vont jaillir.
Ils voudraient nous bâtir du paysage. Je veux des sourires sur chaque visage. Le seul avenir que j'envisage, pour les détruire, faut déconstruire et rebâtir l'antéclivage. Bien sûr, à cap sont tous mes textes. Celui-ci sera pour le S. Le sang des militants qui perdurent, mais que l'État veut mettre en pièces. Racaille à cap jusqu'à la mort. 13-12 ça, on baisse les ports. Regarde comment ils se comportent. Ce putain de rapport de force qu'on porte. Racaille à cap jusqu'à la mort. 13-12 ça, on baisse les ports. Regarde comment ils se comportent. Ce putain de rapport de force qu'on porte. Bien sûr, à cap sont tous mes textes. Celui-ci sera pour le S. Le sang des militants qui perdurent, mais que l'État veut mettre en pièces. T'inquiète, chaque jour on encaisse. Les militants, l'État oppresse. Ce texte est pour le S. T'inquiète, chaque jour on encaisse. Les militants, l'État oppresse. Ce texte est pour le S. Studio non conforme, c'est décadence.
Et il est 19h16, vous êtes toujours sur Radio Canu, le 102.2. Vous êtes à l'écoute du Canu Info du lundi 8 mai, un Canu Info un peu light. Aujourd'hui, on est souvent absent en ce moment, mais c'est la lutte qui veut ça. On vient d'écouter une chanson
Décadence.
En hommage, Décadence, en hommage à Serge, blessé à Sainte-Soline, dont on vient un petit peu de donner des nouvelles.
Voilà, et puisque le 8 mai 45, ce n'est pas que la capitulation allemande. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui en parlent, mais nous, on en avait déjà parlé. On n'est pas les seuls, évidemment, hein, mais le 8 mai 45, c'est aussi le massacre de plusieurs milliers d'Algériens et d'Algériennes par l'armée française et les colons français à Sétif, Guelma et Karata. Cette partie oubliée de l'histoire coloniale, ce massacre, eh bien, on avait envie aujourd'hui de revenir dessus. Et donc, il y a quelques années, dans ce même Canu Info, avec une équipe un peu différente, mais en tout cas, nous deux, on était déjà là. On avait décidé de se faire un petit dossier dessus. On s'est dit que c'était vraiment l'occasion aujourd'hui pour le remettre et vous le faire réécouter.
Exactement.
Voilà, et bah si vous êtes prêts, on le met maintenant. Et puis, à tout de suite, ça dure 15 minutes.
La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est.
Et pour la première fois, le cri des sirènes devient un chant. Et les cloches de tous les clochers s'ébranlent pour un nouveau Noël. La naissance d'une nouvelle paix pour les hommes de bonne volonté. Une sorte de passion commence à animer la ville. Il n'y aura jamais assez de drapeaux, ni assez de joie, ni assez de cloches, ni assez de ciel.
Et non, nous n'allons pas fêter la capitulation allemande, ni la belle victoire de
dommage.
La France, celle-là même qui a collaboré avec le régime nazi de Vichy jusqu'à Bordeaux. Et non, parce que pendant que les Français se réjouissent en Algérie, l'armée française commet un des pires massacres de son histoire coloniale. On a donc voulu vous redire ce soir un peu cette histoire oubliée que les manuels de l'éducation nationale et ses profs aux ordres éludent le plus souvent. On a voulu aussi rappeler que si la guerre était finie pour les uns, elle devait prendre une autre forme pour les autres, et que nous, on est plutôt du côté de cela. Alors, on va revenir un peu plus en détail plus tard sur le déroulé de ce 8 mai 45 en Algérie pour dresser un tableau rapide. En fait, à l'annonce de la capitulation allemande, des milliers d'Algériens sortent dans la rue pour rappeler leur désir d'indépendance et avec l'espoir que la fin de cette guerre leur ouvre de nouvelles perspectives de libération. Et c'est dans l'Est algérien, et particulièrement dans les villes de Sétif, Guelma et Kerata, que ces manifestations spontanées seront le plus durement réprimées. Donc, les chiffres sont très disparates, hein, mais on situe vraisemblablement autour de 40 000 morts pour ces quelques jours de mai 45, où les Algériens ont cru pouvoir partager la victoire. On va écouter tout de suite Kateb Yassine nous parler du contexte dans lequel interviennent ces massacres.
C'est le rationnement, tout était rationné, tout était au marché noir, il y avait la famine. Je ne sais pas si on imagine vraiment ce que ça veut dire, la famine. Moi, j'ai vu de mes propres yeux un homme mort de faim à ces types dans la rue. Et il était à moitié nu, parce qu'on ne trouvait même pas de quoi s'habiller non plus. On ne trouvait strictement rien. C'était la misère la plus noire. Il y avait d'ailleurs, la misère amène d'autres choses, les épidémies par exemple. Il y avait une épidémie de typhus, terrible, au village où j'étais, près de Sétif. Enfin, les gens allaient au cimetière plusieurs fois par jour. On mourait par famille entière, parce que toutes les familles étaient décimées. Et vraiment, c'était une épidémie qui a fait beaucoup, énormément de victimes. La misère, bon, ces épidémies-là, et puis tout d'un coup, l'annonce d'une victoire qui devait se concrétiser par un changement. Une grande espérance, c'était de voir l'Algérie se libérer en même temps que la France et établir avec elle d'autres liens que les liens coloniaux.
Comme on l'a entendu dans l'extrait donc, de Katabi Hassine, le quotidien des Algériens au moment de la Seconde Guerre mondiale, c'est la famine, le chômage et la misère. Donc en plus de la guerre et de la sécheresse, les colons sont appropriés les meilleures terres. Donc les récoltes déjà maigres sont de toute façon pas redistribuées. Le contexte est extrêmement tendu. Il n'y a aucune place pour les velléités indépendantistes au regard de la situation internationale. Les migrations vers la métropole sont interdites. Hein, on ne va quand même pas accueillir la misère qu'on sème. Et en Algérie, la pénurie est encore plus importante qu'en France, et la disette, elle touche plus particulièrement les populations musulmanes. Dès 1941, il y a des mutineries de soldats algériens qui sont également violemment réprimées. Dans la population, si en France la collaboration est plutôt bien assumée, en réalité la population algérienne, elle refusera bien souvent de livrer les juifs d'Algérie. Et environ 150 000 Algériens s'engageront aux côtés du général de Gaulle pour les campagnes d'Italie et d'Allemagne, c'est-à-dire pour sauver la France du péril fasciste. Alors comme ça a été le cas pendant la Première Guerre mondiale, c'est les populations colonisés qui vont servir de chair à canon pour les besoins de l'Empire. Empire qui poursuit pendant ces guerres-là son œuvre de pillage tranquillement. Et les premières victimes, donc, toujours seront les colonies. Alors, au retour de la guerre, ce 8 mai 45, il s'agit en fait pour le général de Gaulle de montrer, dès le premier jour de paix, de montrer que les liens coloniaux ils changeront pas, que les soldats algériens rescapés se sont battus pour la liberté des autres et pas du tout pour la leur. Le jour est parfait pour rappeler à l'ordre celles et ceux qui auraient cru à un vent de liberté. Et
surtout que les Américains, qui sont les vrais vainqueurs, annonçaient à tout le monde le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et il y avait ça aussi.
Et voilà, et du coup, Katabi Hassine nous parle un peu mieux de son expérience personnelle de cette sordide journée, puisqu'il était dans les rues de Sétif, adolescent, au moment de cette répression.
Katabi Hassine, le 8 mai 1945, vous êtes à Sétif.
Oui, ce sont des événements qui ont eu lieu à Sétif et à Guelma, c'est-à-dire deux villes de l'Est algérien. Et ça a été un massacre, un véritable massacre, qui n'a pas manqué de laisser des traces. D'autant plus que pour moi, j'ai été touché dans ces deux villes. Ça s'est produit, bon, j'étais jeune, j'avais 15 ans, donc je ne comprenais pas très bien ce qui se passait, mais enfin bon, grosso modo, c'était la fin de la guerre, la victoire sur les nazis. Donc, c'était un grand événement, c'était la fête. On a entendu sonner les cloches, et puis tout de suite la rumeur s'est répandue que le lendemain on serait libre. C'était bon, un jour de liberté. Et donc, le 8 mai au matin, il y avait une manifestation officielle prévue au centre de la ville, et il y avait une manifestation populaire. Donc c'était un jour de grande espérance, dans un sens, pour les Algériens. Et c'était à Sétif, c'était jour de marché, c'était un mardi, et il y avait une foule énorme. Bon, moi j'ai vu venir le cortège. Au début, il y avait les scouts, puis après, des étudiants, des militants. J'ai reconnu parmi eux des copains de classe. Bon, alors ils m'ont fait signe, et je me suis joint au cortège sans trop savoir ce que ça signifiait. Et puis, tout de suite, ça a été les coups de feu. Bon. Alors, les coups de feu, la panique, parce que cette foule énorme qui reflue, j'ai une petite fille qui a été écrasée devant moi, là, c'était vraiment terrible. Parce qu'il y a eu vraiment la panique, les gens voulaient se sauver, dans tous les sens. Et puis, bon, il fallait que je rentre chez moi, puisque j'habitais dans un village à 45 km de là. Bon, donc, je suis monté là, à l'avant du car, Et j'ai vu, alors à ce moment-là, des choses terribles, parce que le peuple venait de toutes parts. J'ai vu ça comme une, vraiment comme une fourmilière. La terre est devenue une véritable fourmilière. Vraiment, je me demandais d'où venaient tous ces gens. Comment j'avais pu ne pas les voir avant. Mais on avait l'impression qu'ils sortaient de la terre. C'était de toutes parts, ça grouillait de partout. Et puis, il y avait des rumeurs folles. Je ne sais pas, certains disaient que les Turcs avaient débarqué à Bougie, je ne sais pas moi. D'autres disaient que ça y est, que toute l'Algérie s'était libérée. Enfin, on racontait un tas d'histoires. Et puis, il y avait une grande fièvre, naturellement.
On va revenir un petit peu en détail hein, après cet extrait de Katabiassine qui a vécu du haut de ses 15 ans, presque 16, cette journée à Sétif. Eh bien, ce qui s'est passé à Sétif, Guelma et Karata, mais aussi à Constantine et les jours qui suivent dans d'autres villages notamment. Hein, revenons-y et contextualisons un peu. En avril 1945, Messali Hadj, donc le chef hein, des indépendantistes en Algérie, est enlevé puis déporté, ce qui prépare l'incendie populaire. Exaspérés par ce coup de force contre leur leader, les indépendantistes du PPA, le parti du peuple algérien notamment, font la libération de Messali Hadj un objectif majeur et décident de défiler à part le 1er mai déjà, hein, sans la CGT et les PC français et algériens qui restent muets sur la question nationale. Et déjà ce 1er mai à Oran et à Alger, la police et des Européens tirent sur les cortèges indépendantistes, faisant plusieurs morts, des blessés, de très nombreuses administrations. Mais la mobilisation ne lâche pas, et donc ce 8 mai, le Nord constantinois s'apprête à célébrer la victoire des Alliés, tout en rappelant à la France les revendications indépendantistes, et ce, par des manifs pacifistes. Le mot d'ordre était très clair, pas de mot d'ordre armé, pas de mot d'ordre insurrectionnel. À Sétif, une foule d'au moins 10 000 personnes défile dès le matin, pacifiquement et non armée. Hein, il est bien dit aux paysans qui sont venus des alentours de déposer leurs armes. Ils scandent des slogans de type « Indépendance »,« Libérer Messali Hadj », »,« L'Algérie est à nous » et osent sortir un drapeau du PPA, le Parti du Peuple Algérien, futur drapeau algérien. C'est là que tout s'embrase, même si on le verra après, il y a bien eu une préparation de ce massacre, hein, mais un policier tire sur ce porteur de drapeau, rapidement suivi par des coups de feu venus des Européens attablés sur une terrasse de café ou même de leur balcon. Et surgit alors cette fameuse préparation du massacre des Algériens. Une milice d'Européens est formée et armée. La police, l'armée et la gendarmerie sont déployées. La chasse à l'homme et la femme musulmane commence et dure plusieurs jours à Sétif. À Guelma, la situation est similaire. Une manif pacifiste dans l'après-midi, un drapeau algérien qui est déployé, l'ordre est donné de tirer sur le porteur et des milices meurtrières dirigées par le sous-préfet commencent leurs tueries et leurs arrestations massives. Les civils européens et la police se livrent déjà dès 8 mai à des exécutions massives et à des représailles collectives. Et pour empêcher toute enquête, ils rouvrent des charnières et incinèrent les cadavres dans des fours à chaux. Et oui, car les cadavres, ça laisse des traces. À Karata, c'est un peu différent. Proche de Sétif, petite ville, petit village, il n'y a pas de défilé de prévu dans ce petit village tranquille. Mais en fin de matinée, on y apprend les tueries de Sétif. Les Européens prennent peur et s'arment, tandis que des habitants de Karata parcourent tous les villages alentours en appelant la population à se rassembler à Karata. 10 000 personnes s'y retrouvent la nuit et manifestent, révoltées, déchaînées. Ici aussi, l'armée française et les Européens tuent et massacrent. Suite aux assassinats, dans ces trois villes notamment, des groupes d'Algériens ripostent en tuant des Européens. S'ensuit une répression extrêmement violente dans les rues et les quartiers de Sétif et Guelma, alors que la presse française parle abusivement de terrorisme algérien. Pendant une semaine, du 8 mai 45, pendant une semaine, l'armée française, renforcée par des avions et des chars, et sous les ordres directs du gouvernement français, composé de membres du PS et du PC notamment, se déchaîne sur les populations de la région et tue sans distinction. Cette extermination fera, en une semaine, 45 000 morts.
Et après ces épisodes sanglants, il y aura aussi d'autres journées de mobilisation où les exactions continueront pour maintenir l'ordre colonial. Alors De Gaulle, qui est particulièrement attaché à cette colonie, il va tout mettre en œuvre pour faire cesser la contestation. Donc à la répression sanglante s'ajoutera progressivement une politique d'effort social pour tenter de marginaliser les indépendantistes en offrant notamment des rénovations urbaines, des constructions d'hôpitaux et une aide humanitaire. Et donc c'est sous la présidence du gouverneur Yves Châtaignaud que seront entrepris ces différents travaux qui vise à pacifier hein, les velléités indépendantistes des Algériens. On écoute tout de suite un extrait des actualités un an après le massacre de Sétif.
due au calme, au travail, à la paix française, dans cet IF où se sont effacées les traces des regrettables incidents de l'an dernier, le gouverneur général Yves Châtaigneault est venu montrer que rien ne subsiste dans l'esprit français de ce qui fut l'erreur d'une journée. Cet IF, depuis, a vu grandir l'œuvre française. C'est ce qu'a constaté le gouverneur en visitant l'école professionnelle où les jeunes musulmans s'appliquent à la connaissance des techniques modernes. C'est ce qu'il a constaté aussi en visitant l'hôpital de cet IF et en y décorant une infirmière musulmane, mademoiselle Messaï, qui se distingua particulièrement lors du tremblement de terre au Hodna. Le gouverneur général a rendu hommage à l'esprit de fraternité. C'est de cet esprit.
Alors, on a coupé un peu sèchement, hein, mais pour rappel, l'ORTF hein, dépend directement du général de Gaulle hein, et est un outil de propagande de l'État français, on l'a bien vu sur ce court extrait, hein, et ça permet donc à l'État français de faire passer ce que bon lui semble. Alors, de ces massacres, hein, ces massacres vont laisser dans la société algérienne une cicatrice jamais refermée et une haine profonde envers l'armée française.
Tu m'étonnes.
Oui, c'est vrai qu'on pourrait le comprendre, hein, effectivement. Mais également des traces au sein de l'unité du mouvement nationaliste et indépendantiste. Certains considérant effectivement que le PPA, le Parti du Peuple Algérien, et ses dirigeants avaient joué les apprentis sorciers. C'est la fin de l'union du camp nationaliste en Algérie. Et entre 1946 et 1954, va se structurer une organisation paramilitaire à l'échelle nationale. Alors qu'en 1952, les forces de l'ordre tirent à nouveau sur la foule à Orléansville. Le FLN, le Front de Libération Nationale, organisation clandestine très structurée et armée, lance une insurrection armée donc sur plusieurs points du territoire en novembre 1954, déclenchant côté français une réaction dite de maintien de l'ordre, hein, permettant des exactions toutes plus terribles les unes que les autres, et côté algérien, 8 années de guérilla qui déboucheront sur l'indépendance en 1962.
Les micros étant coupés, c'est normal que ça ne marche pas. Vous venez donc d'écouter un petit sujet qu'on avait fait il y a quelques années sur le 8 mai 45, le massacre à Sétif, Guelma, Karata, entre autres en Algérie, par l'armée française. Ça nous a bien fait plaisir de vous le repasser. Et on va terminer cette petite émission du jour par un habituel agenda militant.
Tout à fait, on commence donc par demain, mardi 9 mai, avec la rediffusion sur les ondes de Radio Canu d'une émission proposée par l'association Tilantia avec les habitants du train de nuit qui est un centre d'hébergement à Perrache, et donc c'est à 20h sur les ondes de Radio Canu, donc sur le 102.2 ou en streaming sur le site de la radio.
Jeudi 11 mai de 18h30 à 21h au Casdal, mettre nos forces en commun, partage d'informations et de moyens d'action pour se connaître, pour agir et soutenir la liberté de chacun chacune à vivre où il elle veut. Et il y aura aussi les mineurs.
Alors en fait le sujet de ce
très bien.
Non, c'est donc ça c'est un cycle qui a lieu depuis plusieurs mois et là le sujet aujourd'hui c'est enfin de jeudi pardon, c'est les mineurs non accompagnés voilà autour des droits des enfants.
On vous rappelle aussi qu'à 18h jeudi, il y aura donc une assemblée générale organisée par le comité de lutte de Lyon.
Et vendredi, il y a François Braun qui est censé être le ministre de la Santé.
C'est le ministre de la Santé, il n'est pas censé l'être.
Non, qui est censé venir à Lyon pour inaugurer un centre de recherche contre le cancer. Pour le moment, il n'y a pas d'appel à manifestation, à rassemblement, mais on imagine qu'il devrait arriver dans les jours qui viennent. Donc, on vous invite à checker sur Rébellion, sur les réseaux sociaux pour avoir les infos.
Et le 15 mai... Place de la République à Lyon, il y a un rassemblement pour la visibilité de l'encéphalomyélite myalgique. Alors, on peut peut-être expliquer en deux secondes ce que c'est. Je lis le court résumé. Au moins 500 000 personnes en France sont atteintes d'encéphalomyélite myalgique, EM, maladie chronique dévastatrice. Elles sont ignorées, sans prise en charge ni traitement, confinées, voire alitées, sans date de sortie. Nous nous rassemblons à Lyon pour les rendre visibles et demander droits, recherche et soins pour l'EM.
Et quant à nous, on vous dit probablement à lundi prochain si la lutte nous en laisse le temps.
Et puis bonne fin de soirée.
On vous laisse tout de suite avec les bandes continues. Aïe, 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 aïe
جاي الحرس تلوفان ثبور في الحبس في الزم في الاسطورك في وثوشم فوق تستنى تسجن طلع ماري ثم اركان طلع ماري ثم اركان ثبور في الحبس في الزم في الاسطورك في وثوشم فوق تستنى تسجن طلع ماري ثم اركان طلع ماري ثم اركان Monsieur le Président, Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus.